Le ministre du Plan compte organiser, comme je l'ai dit, le 30 juin 2010, le deuxième recensement général de la population congolaise et de l'habitat. Déjà, les cadres de ses services ainsi que ceux de l'Institut national des statistiques affûtent les armes pour l'organisation matérielle du dénombrement de la population congolaise. Il était près de 80 à participer à un atelier organisé à cet effet à Kisantu, dans la province du Bas-Congo. Et quelles sont les recommandations qui en sont sorties? Nous en saurons un peu plus, mais d'abord, il faut rappeler que le premier recensement, je l'ai dit tantôt, général de la population, avait eu lieu en 84. S'il faut attendre en 2010, il faut compter donc 26 ans passés aujourd'hui, donc deux décennies et plus de deux décennies, pour que nous ayons encore un deuxième recensement. Quels sont les plans opérationnels élaborés pour la réussite de cette opération dans le Congo à dimension continentale? Réponse d'abord avec le point que nous allons faire avec Jody Chama. Jody, bonjour.
Oui.
Alors, quelle est l'importance d'une telle opération aujourd'hui? Donc, je vais parler du recensement.
Il faut d'abord retenir que la maîtrise des statistiques de la population est un des indicateurs du développement d'un pays. Selon les informations reçues, la RDC manque d'informations fiables sur la population et ses principales caractéristiques socio-démographiques et économiques. Toutes les données sont dépassées du fait qu'elles datent du dernier recensement qui a eu lieu en 1984. Dans les archives nationaux congolais, il existe soit des données partielles issues des dernières enquêtes menées par certains organismes, soit des enquêtes de certains experts. Cependant, ces enquêtes ne couvrent pas l'ensemble du pays. C'est fait sur base d'un échantillon de la population. Donc, ce dénombrement de la population permettra de récolter un certain nombre de caractéristiques, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, le niveau d'études, les maladies, la nationalité, etc. Et ainsi, le pays aura la situation démographique de la population.
Alors, comment la population a-t-elle réagi par rapport à cette grande opération?
Les réactions sont mitigées, certains apprécient, d'autres ne voient pas l'opportunité d'une telle opération. Ils affirment que le recensement avait déjà eu lieu lors des élections qui ont été organisées dernièrement par la commission électorale indépendante, suivant d'ailleurs ses points de vue.
Dans le groupe de Mobutu, on connaissait au moins le nombre de populations parce qu'on les recensait tout le temps. C'était pas exact. Au moins, on avait une idée que ça faisait entre 50 et 60 millions. C'est ce qu'on disait dans l'état carte supérieure, en carte d'identité. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas ça. Ils ne savent pas comment ils vont comptabiliser les gens. Et puis, tous qui étaient dans le province, aujourd'hui, ils sont ici à Kinshasa. Kinshasa, il a inondé 20 à 30 millions.
Mais c'est normal, les gens doivent étranger tous les Congolais. Il faut que les Congolais les Congolais. Comment ils doivent étranger dans les balades et là, dans les balades. Mais en tout cas, je dis, on a pris un peu de mal parce que ça fait longtemps, là, mais c'est dans une minute. Ça fait longtemps, et à l'époque, on vous dit dans le cas là, depuis les lois, ça fait même quand il a vu le pouvoir déjà dans 11 ans, et la Seigneur, c'est toujours été dans une minute. Pour tout, il y a un peu de Congolais, il y a un peu de Congolais, mais il y a un peu de Congolais. Pour moi, vous allez en parler, on va être censé dans le grand histoire.
On avait défendu les Congolais quand on a fait les élections, hein? Mais pourquoi cette fois, hein? Moi, je ne suis pas content, je suis contre. D'après moi, je suis content, c'est jouer avec nous, c'est jouer avec la population.
Vous estimerez la population congolaise à combien?
66 750 751 512 habitants.
Voilà, c'est un peu flou, hein. Chacun avance les chiffres par rapport à ses connaissances. Mais quelles sont les stratégies arrêtées pour la réussite du comptage de la population?
Oui, disons que toutes les batteries sont déjà en marche pour préparer cette grande opération. C'est déjà la phase préliminaire. Les cadres du ministère du Plan, ceux de l'Institut national des statistiques, ceux de l'Institut géographique national, des professeurs d'université et un expert du CNUAP venu de New York, ils se sont retrouvés tous dernièrement à Kisantu, au Bas-Congo, pour élaborer un plan opérationnel. Je vous propose d'écouter les explications de M. Arsène Ouawa, coordonnateur du groupe de travail technique chargé de préparer le deuxième recensement général de la population et de l'habitat.
Alors, il y a tout un ensemble de problèmes qu'il faut résoudre, les problèmes liés à l'accessibilité des populations, parce que vous savez qu'actuellement, l'état des routes et un certain nombre de réalité sont qu'il ne serait pas facile de joindre les coins habités à partir de Kinshasa. Alors il fallait développer des stratégies pour faciliter l'accessibilité. Là où se pose ce problème de l'accessibilité, il fallait par exemple penser à comment faire parvenir les frais de motivation à l'agent qui se trouve à partir d'ici, la zone qui se trouve par exemple à Harou, il faut penser à former le personnel, parce que ce n'est pas une affaire qu'on trouve comme ça sur le marché. Il faut former un personnel très qualifié. Et il faut voir comment rapidement sortir les résultats de cette grande opération, de manière à ce qu'on puisse disposer, aussitôt après le dénombrement, qu'on puisse disposer dans les meilleurs délais des résultats du recensement, quel outil informatique utiliser pour exploiter les informations. Bon, il y a tout un ensemble de problèmes, il y a la sensibilisation et de la population et des autorités pour qu'ils sachent à quoi va servir cette opération. Et il y a le grand problème qui est le problème de financement de l'opération.
Voilà, alors, l'idée, je dis, combien va coûter cette opération à travers le pays. Donc, je vais parler de financement.
Oui.
Les bailleurs des fonds ont misé sur combien?
Ben, c'est selon les informations reçues, cela va nécessiter plus de 100 millions de dollars américains pour l'organisation matérielle du comptage de la population. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent.
Alors, nous avons appris que l'Institut Géographique National est également associé à cette opération. Quel rôle va-t-il jouer concrètement en ce qui concerne le recensement de la population?
L'Institut Géographique National du Congo a un rôle important à jouer dans ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat. C'est ce qu'affirme d'ailleurs M. Honoré Matezo Bakunda, directeur de cet institut. On peut l'écouter.
Ce sont les chiffres qu'on va recueillir, mais il faut les mettre quelque part. Je pense que nous, le rôle que nous avons, c'est de pouvoir matérialiser, mettre ces chiffres sur un support. Enfin, sinon, ça ne dit rien, ça ne dit rien. Donc, l'Institut va utiliser ces chiffres-là qui ont été récoltés pour les mettre sur une carte sur l'enfant, pour que ça soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus représentatif. Donc, l'Institut va intervenir, si vous voulez, en aval, mais en tout cas, avec un rôle indispensable. Le vrai recensement scientifique a été fait en 84, c'est trop loin. Tout ce que nous disons aujourd'hui, chasser 6 millions, tous sont déclarés en décès 60, sont des estimations qui sont faites à peu près, disons, depuis 84, ça fait aujourd'hui, à peu près plus de 20 ans. On n'a jamais fait ça, donc on n'a jamais compté. Bon, c'est important. Il y a des pays qui font le recensement tous les 5 ans. Il y en a. C'est énorme. Donc c'est vraiment une opération très importante, il faut qu'on arrive à ça.
Cette opération aura lieu en 2010, et pour vous rappeler, je pense que c'est en prévision des élections qui auront lieu en 2011, je dis.
C'est selon un cadre du ministère du Plan, il faut connaître les caractéristiques de la population pour bien planifier les actions de développement. Donc, c'est possible que les données qui seront recueillies permettent aussi, ces données recueillies vont également permettre une bonne organisation des élections, ça c'est sûr.
Merci, je dis, et à la prochaine.
À la prochaine, hier.
Nous avons déjà dans ce studio M. Jean-Pierre Bokeli et Allé, coordonnateur adjoint du groupe technique de travail sur les recensements. Monsieur Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Nous avons également en ligne le professeur Paul Nzitakinkela, qui est chef de département au niveau de campus, disons, de l'Université de Kinshasa, en sciences de la population et du développement. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, nous commençons notre entretien avec Jean-Pierre Bokeli et Allé. Déjà, il y a un atelier qui a été tenu à Kisantou pour préparer ce que sera cette grande opération. Et à l'issue de cet atelier, et ça va être un plan opérationnel. Est-ce qu'on peut avoir une idée à quoi ressemble ce plan opérationnel?
En fait, notre recensement, disons, l'atelier de Kisantou a consisté principalement à finaliser le document du projet, donc le cadre général de l'opération, et un certain nombre de plans opérationnels, notamment le questionnaire de recensement, parce qu'en fait c'est l'outil indispensable à partir duquel nous allons recueillir un certain nombre d'informations. Alors il fallait se mettre d'accord sur cela, et nous avons réuni tout le panel d'experts en collecte de données que le pays conserve avec nous avons aussi bénéficié de l'appui d'un expert international du Fonds Nations Unies pour la population qui est de New York. Il nous a aidé en fait, il nous a accompagné à finaliser tout cet ensemble d'outils de travail, notamment le questionnaire, comme j'ai dit, le plan de cartographie, le plan de sensibilisation et d'autres, le plan de plaidoyer, parce qu'en fait il faut faire le plaidoyer pour mobiliser les ressources, tant au niveau national que par rapport à nos partenaires au développement.
2008, 2010, deux ans vont s'écouler entre ces deux années. Qu'est-ce qui sera fait concrètement par rapport à ces projets?
Voilà, le temps est court, effectivement. Bon, évidemment, 2010, que nous souhaitons, nous voulons placer effectivement le dénombrement, l'opération lui-même, enfin elle-même, au 30 juin 2010, parce qu'en fait, c'est une date symbole, une symbolique pour notre pays. Nous avons accédé à l'indépendance le 30 juin 1960, et au 30 juin 2010, ça fera 50 ans, nous appelons effectivement les autorités à ce que elle puisse accélérer la signature de la base légale pour que nous puissions vraiment mettre toutes les batteries possibles dans les deux ans qui nous restent pour en fait organiser le recensement en 2010.
Donc si je comprends bien, le démarrage effectif de cette opération, c'est le 30 juin 2010.
Ça c'est, il n'y a pas encore, c'est pas encore décidé. En fait, tout partira de la signature de la base légale. La base légale, c'est quoi? C'est le décret que le Premier ministre doit signer et qui doit prescrire le recensement. Parce qu'en fait, c'est une grosse opération, il doit avoir une base légale. Et à partir de cette date-là, si du moins si le décret est signé...
Donc ça peut intervenir avant le 30 juin?
Quoi ça?
Le dénombrement, proprement dit.
Non, nous voulons le placer au 30 juin 2010. C'est ça notre objectif. Hein, mais pour arriver à cela, il faudra que déjà... qu'on mette en branle toute la machine de préparation de l'opération.
Tout à fait. Mais alors, parce que 2010, si jamais vous n'atteignez pas cette assignation, ça risque de perturber l'ordre normal des choses, parce que les élections vont intervenir en 2011.
Non,
pas que juin, c'est juste si jamais vous ratez les trains.
Non, nous ne mettons pas au devant l'aspect élection. Hein. Le recensement de la population général et de l'habitat a pour but d'abord de fournir aux autorités, aux planificateurs, à ceux qui ont la décision, des outils nécessaires pour la décision, hein, des outils d'aide à la décision, des outils de planification, de programmation et de gestion de projets et programmes. Bien sûr que les résultats qui seront issus du recensement vont aider à actualiser notre fichier électoral, parce qu'en fait, pour les élections, on a besoin juste de la population de 18 ans plus. Alors que pour le recensement de la population, c'est la population totale du pays que nous devons connaître dans sa structure en tant qu'insecte, âge, répartition, les habitats pour en fait la planification de développement, les allocations des infrastructures, ainsi de suite.
Alors disons que vous n'avez que l'année 2009, parce que 2008, ça touche déjà à sa fin. Alors nous avons vu quand même une certaine lenteur administrative du côté de cette opération qu'on avait initiée au niveau du ministère de la fonction publique autour de la réforme de l'entreprise publique, disons, de l'administration publique, en ce qui concerne le contrôle des effectifs des agents de l'État. Il y a même cette opération qui a pris beaucoup de temps. Alors, nous imaginons que ça pourrait être le cas avec vous, surtout avec des coins inaccessibles dans le pays. Parce qu'il y a certains coins qui sont inaccessibles. Il faudrait vraiment une approche sérieuse pour arriver à mener ces actions à temps et avoir le résultat escompté également à temps. Alors, est-ce que vous avez pris toutes les dispositions pour éviter de retomber dans les mêmes problèmes que ceux-là qui sont commis pour les opérations de contrôle technique au niveau de la fonction publique?
Oui, vous avez totalement raison. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une opération, une mauvaise opération. Le coordonnateur lui-même, vous a dit que c'est une opération difficile. Et ça requiert beaucoup de préparation. Nous pensons que le recensement électoral qui a eu lieu en 2006, le recensement de fonctionnaires, les deux opérations constituent pour nous en fait des atouts. Nous allons nous inspirer pour voir là où il y a eu beaucoup de difficultés pour qu'on puisse s'attendre dans les mêmes horaires.
Mais avant d'aller à la CIVI et élaborer un plan opérationnel, il était question, vous avez dit que le panel, vous avez associé tout le monde, pourquoi n'avoir pas associé ceux-là qui ont déjà tenté cette expérience au niveau de recensement des agents et fonctionnaires de l'État? Parce que c'est pas un secret, ils ont connu pas mal de difficultés, raison pour laquelle, juste qu'aujourd'hui, il y a des rejetés, on parle des rejetons, il y a ceux-là dont les noms sont omis et tout, bref, tous ces désordres qu'on a dû enregistrer. On peut se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire des cas, des erreurs, des ennuis.
Non, l'opération, le recensement général de la population et de l'habitat, d'ailleurs en 84, on l'appelait recensement scientifique. En fait, c'est une opération qui obéit à un certain nombre de critères. Effectivement, la partie difficulté, on ne peut pas l'oublier. Hein. Entre-temps, nous avons des amis au niveau de l'Institut national de la statistique qui font le terrain nous avons, on vient d'organiser il n'y a pas longtemps l'enquête démographie des santé, les enquêtes sur le terrain. Il y a eu Mix et il y a eu d'autres enquêtes, et à partir de ces enquêtes-là, et le renseignement électoral et le renseignement des enseignants, nous, nous collectons ce genre d'informations pour en fait capitaliser, nous donner toutes les choses.
Oui, nous avons également le professeur Paul Zita qui est là, qui est chef du département de sciences de la population et du développement à l'UNICI. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que la maîtrise de statistiques de la population constitue un des indicateurs du développement d'un pays?
Bon, oui, c'est à la fois un indicateur du niveau de développement d'un pays, mais aussi un élément qui contribue au développement d'un pays. Bon, dans les pays développés, on retrouve effectivement des statistiques démographiques qui sont très bien tenues. Et cela commence avec l'état civil, le registre de la population. Et donc, si dans le pays en développement, si tout le monde se déclarait à l'état civil et si tout le monde se faisait enregistrer dans le registre de la population, on n'aurait pas besoin de faire des recensements tous les 5 ans. Dans le pays développé, on le fait une fois tous les 10 ans. Mais c'est parce que chez nous, on ne sait pas qu'on est obligé de faire des recensements réguliers pour avoir des renseignements sur la population. Maintenant, c'est un input important pour la planification du développement. Parce que, comme nous tous nous le savons, pour se développer, on doit recueillir des ressources naturelles, les transformer en produits finis ou semi-finis, et puis mettre ces produits finis ou semi-finis à la disposition de la population pour qu'il y ait satisfaction des besoins. Qui produit, c'est la population. Qui consomme, c'est la population. On distribue les produits finis auprès de qui? Auprès de la population. Donc la population se retrouve à tous les niveaux de cette fonction de développement, et au niveau de la production, et au niveau de la distribution, et au niveau de la consommation. Et donc, il est important de connaître la population pour pouvoir ajuster les ressources qui sont produites, pour pouvoir assurer la consommation optimale et aussi la distribution optimale. Et c'est ça l'importance des données démographiques que doit fournir le recensement de la population.
Oui, professeur, une curiosité, parce que là, il y a un auteur congolais qui a parlé de la démographie dans une de ses phrases, il dit « L'expansion démographique peut constituer également un frein au développement. » Est-ce que vous êtes de cet avis?
Oui, je suis de cet avis également. Bon, dans le monde entier, il y a 4 types de populations. Il y a une population à base large, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent dans les pays en développement, notamment ici en RDC, où à peu près la moitié de la population se retrouve en dessous de l'âge de 20 ans. Et donc, on a une population qui s'accroît très rapidement. Et en ce moment-là, si la croissance économique n'est pas suffisamment élevée, la population va constituer un frein au développement socio-économique. Alors, et dans les pays développés, on a juste l'inverse. Dans les pays développés, on a peu d'enfants, peu de jeunes, mais on a surtout des personnes adultes et on a des personnes qui sont très âgées, donc des vieux. Alors à ce moment-là, la population qui contribue à la production des ressources est évidemment plus importante que la population qui est active. Alors à ce moment-là, effectivement, la production de ressources se fait à un rythme de croissance qui est supérieur à la croissance démographique. Alors à ce moment-là, la population ne va plus constituer un frein, mais plutôt un élément du développement. Excepté que, évidemment, dans ces populations-là également, le grand problème, c'est le renouvellement. Comme il y a de moins en moins d'enfants, dans les années qui vont venir, on va avoir de moins en moins de personnes adultes qui travaillent. Et si on a moins de personnes qui travaillent, les nouvelles entreprises, donc les entreprises qui s'installent à la suite de la croissance économique, ne trouvent pas nécessairement les personnes dont ces entreprises ont besoin pour pouvoir fonctionner. Mmh. Alors, à ce moment-là, il y a un problème de main-d'œuvre, oui. Insuffisance de main-d'œuvre. Donc, c'est juste l'inverse.
Oui, professeur, disons, l'idéal serait de faire le recensement tous les ans ou, tous les ans ou deux ans ou trois ans après.
Mais non, c'est-à-dire que si on a les ressources, l'idéal serait de faire un recensement tous les cinq ans. Il y a un produit africain, il y a un pays africain qui a essayé d'appliquer ça, c'est l'Afrique du Sud. Et ça marche correctement. Et l'Afrique du Sud contrôle maintenant correctement ses indicateurs démographiques.
Alors je regarde quand même la question, quels sont les avantages qu'on peut tirer d'un recensement régulier?
Bon, le grand avantage, c'est de disposer à tout moment des renseignements fiables et à jour en ce qui concerne la population, les données dont on a besoin, à la fois pour planifier la production que pour planifier la distribution et la consommation des ressources. Et donc, par exemple, la planification de l'accès aux services sociaux se fera correctement parce qu'on saura à chaque niveau, quel est l'effectif de la population, quel est l'effectif de la population par territoire, par district, par province, et en ce moment-là, on peut planifier la construction des écoles en tenant compte de l'évolution de la population.
Mais en tenant compte également du flux migratoire qui sont liés à trois ou quatre facteurs comme ça, notamment les guerres rurales, les déplacements suite aux guerres, ainsi que les études donnent des facteurs comme ça qui peuvent intervenir ponctuellement.
Oui, bien sûr. Les mouvements migratoires ont un effet important sur les mouvements de la population. Ça modifie la population de référence et en ce qui concerne la production et en ce qui concerne la distribution et en ce qui concerne la consommation. Et donc, les mouvements migratoires, on doit en tenir compte, effectivement, comme vous le dites. Et comme ça bouge beaucoup, c'est le cas dans notre pays. Avec les guerres qu'il y a eu, il y a eu de nombreux déplacements de personnes. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on doit faire les recensements pour savoir maintenant où se trouve la population congolaise, dans quel coin elle est le plus concentrée. Donc, le mouvement migratoire, on doit en tenir compte, effectivement.
Professeur Paul,
oui?
C'est bien beau tout ce que vous dites, mais d'après vous, comment procéder pour réussir ce recensement de la population?
Bon, mais c'est l'objet de l'atelier qui vient de se tenir à Kisantou.
Uh-huh.
Je pense que la première chose, il faut d'abord fixer la nuit censitaire, donc le jour de référence. J'entendais M. Bokeli, par exemple, tout à l'heure, il parlait du 30 juin. Donc, on fixe d'abord une date de référence.
Uh-huh.
Maintenant, par rapport à cette date de référence, on doit positionner toutes les activités préparatoires de telle sorte que le jour J, qu'on soit prêt, que la population soit mobilisée, que la population participe à la réalisation du recensement. Mais le plus grand problème, ce n'est pas tout à fait de dénombrer la population à une date donnée. L'un des grands problèmes, c'est l'analyse des données qui sont obtenues. Une fois qu'on a fait le dénombrement, qu'on a les renseignements sur la population, il faut maintenant analyser les données de telle sorte qu'on puisse en tirer les orientations nécessaires en ce qui concerne la planification du développement. C'est au niveau de cette deuxième étape que se trouvent les plus gros enjeux. Il faut que les gens qui font l'analyse tirent les conséquences nécessaires pour l'implantation des services sociaux, pour l'implantation des entreprises, ainsi de suite. Donc, en fait, pour le développement socio-économique de façon générale.
Professeur, le dernier recensement date de 14 ans, donc de 1984. Est-ce qu'il fallait attendre 14 ans pour faire ce recensement?
26 ans.
Oui, 26 ans. Bon, effectivement, c'était un peu long. Il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on n'ait pas eu un recensement plus tôt. Il ne faut pas oublier qu'on projetait effectivement de réaliser un recensement en 1994.
Mm-hmm.
On ne l'a pas fait pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des événements en 91, 92, 93. Il y a eu les pillages. Et même le fichier du recensement de 84 avait été emporté. Heureusement, il y avait une copie au niveau des bureaux des Nations Unies. Et donc, on a dû, dans la suite, quand la situation s'est calmée, on a dû maintenant utiliser cette copie qu'on avait pu sauvegarder. Donc, il y a eu le pillage. On n'a pas pu le faire en 94. Et vous savez d'ailleurs qu'à ce moment-là, il y a eu l'hyperinflation.
Mm-hmm.
On n'avait pas suffisamment de ressources pour pouvoir réaliser un recensement. N'oublions pas non plus qu'en 94, il n'y a même pas eu de budget au niveau de la nation. On n'a pas pu réaliser un budget à cause de l'hyperinflation qui était là. Et donc, on a retardé. Ensuite, 2 ans après, il y a eu la guerre de 96. On ne pouvait pas faire le recensement. 2 ans après, en 98, une nouvelle guerre encore. On ne pouvait pas faire le recensement. Et donc, on est maintenant au-delà de l'an 2000. À partir de l'an 2000-2001, il y a eu la reprise économique. Avec cette reprise économique, on a repris l'habitude de faire de la planification. Donc, de monter des plans et des programmes de développement. C'est grâce à cette reprise économique, grâce à ce regain d'intérêt pour la planification, grâce à la paix qui est en train de s'installer, même s'il y a quand même encore des problèmes à gauche et à droite, c'est grâce à tout ça qu'on peut maintenant envisager le prochain recensement. Bon, n'oublions pas non plus qu'il y a eu l'embargo. Voilà, il y a eu tous ces problèmes.
Oui, professeur, il y a eu plusieurs facteurs. Si on continue à attendre, il y aura toujours des facteurs qui vont bloquer, il n'y aura toujours pas des recensements.
Oui. Non, mais oui, mais c'est pour cela que cette fois-ci, on s'est dit, on y va. Comme il y a, au niveau de la communauté internationale, plusieurs sensibilités qui sont favorables à la réalisation de ces recensements, comme dans le pays, à la suite justement des problèmes des élections. On a réalisé qu'on a besoin de ces données. Au niveau de la planification, il y a une prise de conscience qui est très forte pour la connaissance des données de population. Avec ces atouts, on s'est dit, malgré les quelques problèmes qui subsistent, on se jette à l'eau. Et on a déjà presque fixé l'échéance, comme le disait M. Bokeli. Il y a une échéance.
Voilà,
et par rapport à cette échéance, on va travailler. Voilà, c'est ça la situation actuelle.
Professeur, on va revenir à vous. Mais il est temps d'accorder encore la parole à Jean-Pierre Bokeli et Allé. 100 millions de dollars américains pour réaliser cette opération. Est-ce simplement suffisant par rapport aux besoins réellement exprimé.
Voilà, le chiffre que nous venons d'avancer, il est encore au niveau indicatif.
Parce que le pays est vaste. Hein.
Le pays est vaste, mais nous allons affiner en fait l'élaboration du budget en disséquant le plus possible nos activités en sous-activités tâches et de budgétiser. Et je crois que dans les jours qui viennent, on va vraiment boucler notre budget et d'avoir le connaître un peu mieux.
Alors, une autre curiosité, est-ce que les données que détiennent que détient la CEI peut vous servir également, peut vous inspirer pour mener vos actions?
Bien sûr, je dis que l'élection, l'enrôlement, au niveau de pour les élections, mm-hmm. va nous servir de base en fait, parce qu'on ne peut pas partir du néant, ex nihilo. Hein, il y a eu les élections, il y a eu l'enrôlement pour les élections.
Mais monsieur Bokeli, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont pas fait enrôler.
Oui, nous sommes conscients de cela, mais ce n'est qu'une base de référence, et nous n'avons, c'est pas la seule base, mais nous allons partir de cette opération pour pouvoir peut-être ajuster notre tir.
Mais M. Bokeli, on entend souvent dire que la RDC compte autant d'habitants, chaque année on nous dit ceci, aujourd'hui, demain on nous dit ceci, d'où vient
la source d'information?
Voilà, c'est ça toute la difficulté que nous avons. Hein. Aucune autorité dans ce pays ne fait avancer le chiffre exact de la population congolaise, et c'est malheureux. Même la ville de Kinshasa, on nous dit c'est 6 millions, 8 millions, non, on ne peut pas...
Demain on nous dit 10 millions,
voilà.
Aujourd'hui donc, 6 millions, finalement,
nous ne pouvons pas naviguer, continuer à naviguer à vie. Mm-hmm. C'est ça tout l'intérêt que nous avons pour organiser ce recensement et connaître la population congolaise.
Mais il faut tenir compte, c'est vrai que la situation du pays, nous sommes un pays post-conflit, et il y a encore quelques zones d'insécurité, l'idéal serait de commencer là où la paix est totale, la paix est vraiment visible, notamment la partie ouest, pour gagner peut-être du temps. On est d'attendre de faire une vaste opération, donc une opération générale, qui peut-être ne viendra pas, ne fera pas la tâche, mais non.
Non, nous sommes conscients de ça, hein, parce qu'en fait, il y a encore de poches d'insécurité dans le pays. Et dans notre stratégie, dans notre plan opérationnel, nous allons tenir compte de tous ces éléments, en fait, pour pouvoir arriver à réussir notre défoncement.
Alors, nous avons des réactions qui nous viennent de partout. Il y a un auditeur qui a réagi.
Oui, M. Bocchelli, il y a quelqu'un qui nous a écrit de l'Est et dit, pour nous qui sommes à l'Est, une population mixte, qui sera identifiée?
Oui, pour dire le recensement concerne
tout le pays, les pays, les déplacés
qui sont là,
les réfugiés.
En tout cas, pour le professeur a parlé de la date de référence. Mm-hmm. Que nous allons recenser toute personne qui se trouve au centre congolais au 30 juin
et qui a la nationalité congolaise.
Non, nous allons recenser pas seulement les Congolais, nous allons recenser tout ce monde dans notre
Congo,
qui se retrouve à cette date-là au Congo. Étrangers comme nationaux.
Voilà, donc merci d'avoir apporté cette précision. Nous allons vous accompagner dans cette démarche pour voir quel sera l'aboutissement. Monsieur Jean-Pierre Bocchelli, n'hésitez pas à chaque fois que vous avez besoin de passer l'information de nous en faire part et nous allons vous accompagner pour amener à bon port cette action. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et merci surtout d'avoir apporté cet éclairage.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, nous disons également merci professeur Paul Ndita qui était là, chef du département de sciences de la population et du développement. Nous allons vous retrouver très prochainement dans un autre débat.
Ok, oui, merci beaucoup.